7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Nous allons évoquer le statut d'artiste, le rôle des artistes et puis leurs conditions dans la société contemporaine, tout simplement parce que le Palais des Beaux-Arts de Lille propose de découvrir ce rêve d'être artiste, une exposition qui va s'ouvrir le 20 septembre, donc à Lille jusqu'au 6 janvier. Vous aurez la possibilité de voir une centaine d'œuvres d'hier et d'aujourd'hui, Manet, Renoir, Claudel, Frida Kahlo, Marina Abramovic ou Jeff Koons. Par exemple, Bruno Girvaud, vous êtes le directeur du Palais des Beaux-Arts de Lille. Vous allez nous présenter dans quelques instants cette exposition. En face de vous, une sociologue, Nathalie Hennig, bonjour. Vous êtes sociologue notamment de l'art. On vous doit beaucoup d'ouvrages sur l'art aujourd'hui, notamment sur le statut d'artiste et la notion d'auteur, sur l'art contemporain avec le triple jeu de l'art contemporain. Et comme vous le savez, c'est la saison des prix littéraires. Cette saison, elle s'est ouverte hier avec un prix, le prix bleu Jean-Marc Roberts, qui a été décerné à la Maison de la Radio. Et ce prix, il est allé à une romancière que vous avez entendue dans les matins, Emma Becker. Elle a publié un ouvrage qui s'intitule La Maison, publié aux éditions Flammarion. Alors, le prix bleu, c'est un prix qui récompense traditionnellement le deuxième ou troisième roman d'un auteur auquel on fait confiance pour poursuivre une œuvre. Là, en l'occurrence, Emma Becker a raconté son séjour pendant 2 ans dans une maison close de Berlin. Et j'aimerais vous demander, Nathalie Hennig, dans quelle mesure ce statut d'artiste pour, en l'occurrence, un romancier, une romancière, il s'accompagne aujourd'hui de cette tentative, alors ou bien de récits personnels, d'autofiction. Ça vaut pour donc Emma Becker, ça vaut pour un autre roman dont on a beaucoup parlé pour d'autres raisons, celui de Yann Moix, Orléans. Bref, votre point de vue de sociologue sur ce fait nouveau.
Disons que les frontières de la vie privée se sont beaucoup abaissées, c'est-à-dire que la différence entre vie publique et vie privée est beaucoup moins nette qu'elle a pu l'être auparavant, et qu'il est devenu relativement admis et même standardisé qu'un auteur, plutôt qu'un artiste en l'occurrence, on a plutôt tendance à attribuer le mot artiste à des plasticiens, à des peintres, des sculpteurs, mais là, en l'occurrence, c'est un artiste, mais sous la forme d'un auteur littéraire. Bon, on a plutôt aujourd'hui cette idée que il est licite pour un auteur d'exposer sa vie privée. Bon, ça donne en effet l'autofiction, ça donne ce type de document. Ça fait partie, me semble-t-il, non seulement d'une évolution des genres littéraires, mais aussi de ce qui se passe avec les réseaux sociaux qui permettent à tout un chacun d'exposer sa vie privée. Ça a commencé à la fin des années 90 avec la webcam, hein, et ça continue bien sûr aujourd'hui. Et du même coup, on a une modification assez générale de cette licéité de l'exhibition dans l'espace public de sa vie privée, et qui du même coup donne aussi des effets dans la vie littéraire.
Et la part de création, d'imagination qui était traditionnellement associée à l'artiste, est-ce qu'elle disparaît? Est-ce qu'elle se transforme, Nathalie Hennig?
La part d'imagination a toujours été en effet très fortement associée à la création artistique, mais elle n'est pas la seule, puisqu'il y a aussi toute une dimension de mise en forme documentaire de la restitution de l'expérience vécue qui fait partie aussi de la création littéraire. On a toutes sortes de grandes œuvres qui ne prétendent pas à avoir une imagination débordante, mais qui sont des œuvres par la qualité du style, de la construction, enfin du travail proprement littéraire qui permet de rendre compte de la réalité. Donc voilà, on a ces deux tendances, hein, la tendance très très imaginative et la tendance plutôt réaliste documentaire qui est dans l'histoire littéraire depuis quasiment les origines.
Aujourd'hui, il y a un autre phénomène. Alors, vous nous direz tous deux s'il s'agit d'un phénomène nouveau. C'est le phénomène de starification d'un certain nombre d'artistes. Et comme j'ai le privilège de traverser Paris la nuit à côté de la Maison de la Radio, on est en train d'emballer pour le déballer bientôt une vaste sculpture, les tulipes de Jeff Koons, qui vont être officiellement dévoilées le 4 octobre. C'est une œuvre qui a fait polémique. Peut-être pourrez-vous rappeler, d'ailleurs, en quelques points, Nathalie Hennig, pourquoi elle a fait polémique et en quoi celle-ci est représentative, là aussi, d'une nouvelle facette du statut d'artiste.
Oui, alors sur la polémique, c'est très intéressant. C'est le genre de polémique que j'ai adoré étudier. Bon, je ne le fais plus, mais là, il y avait vraiment de la matière, puisque il y a eu le milieu de l'art contemporain, le milieu des spécialistes, s'est clivé, ce qui est très très rare. Hein. D'habitude, l'art contemporain oppose plutôt les spécialistes au grand public, et là, c'est à l'intérieur des spécialistes, il y a eu une ligne de fracture entre ceux qui défendaient ce cadeau fait à Jeff Koons à la ville de Paris d'un immense bouquet de tulipes stylisé. Bien sûr, en disant bah, c'est un très grand artiste, il vaut très cher, il est très connu, donc c'est un formidable cadeau, on ne peut pas le refuser. Et en face de ces défenseurs de ce cadeau, il y avait les détracteurs qui estiment que peut-être, alors certains parce qu'ils estiment que Jeff Koons n'est pas un grand artiste, d'autres qui estiment que le problème n'est pas là, mais que le problème est que quelqu'un qui vous offre un cadeau n'a pas à décider lui-même l'emplacement. C'est ce que disait très bien Yves Michaud dans une tribune qu'il avait faite au Monde sur le sujet. Quand votre belle-mère vient vous offrir un cadeau, elle décide pas de l'endroit où vous allez l'accrocher.
C'est discuté.
On pourrait ajouter d'ailleurs que c'est même pire, puisque ce serait l'idée que la belle-mère, en guise de cadeau, offrirait son propre portrait, vous voyez, le portrait d'elle-même, et imposerait l'endroit où l'accrocher, puisque ce bouquet de tulipes est évidemment, pour Jeff Koons, une façon d'utiliser le prestige de la ville de Paris pour faire un magnifique écrin à son œuvre. Donc c'est quand même un cadeau dont on peut dire qu'il est extrêmement intéressé. Par ailleurs, il y a la question de ce que ça coûte, puisque l'œuvre elle-même ne coûtera rien aux contribuables, mais elle coûtera indirectement via la défiscalisation des dons des mécènes qui ont...
Donc c'est comme si votre belle-mère, en fait, vous proposait d'acheter son cadeau.
Voilà, d'une certaine façon, ou en tout cas, vous demandez de payer l'assureur, le déménageur, l'installateur, etc. Et là, pour le coup, ça coûte assez cher. Donc, voilà. Donc on a un magnifique exemple de conflit autour de l'art contemporain. Avec ce bouquet de tulipes.
Jeff Koons fait partie des artistes qui composent l'exposition qui va s'ouvrir dans quelques jours à Lille, au Palais des Beaux-Arts que vous dirigez, Bruno Giraud. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Jeff Koons ?
Ah, alors, je ne suis ni fan de Jeff Koons, ni de cette œuvre en particulier, que je ne trouve pas sa meilleure. En revanche, ça démontre que les artistes, aujourd'hui mais hier aussi, sont capables de développer des stratégies de promotion et d'autopromotion très élaborées, très efficaces. Voilà. Et Jeff Koons m'intéresse, peut-être pas artistiquement, mais plutôt dans son parcours et dans sa capacité à se mettre en avant. Et c'est un homme remarquablement intelligent et remarquablement cultivé.
Et justement, par rapport à cela, est-ce que la personnalité de l'artiste n'a pas phagocyté chez lui, chez d'autres, je dirais, l'art, tout simplement, Bruno Giraud ?
C'est arrivé à un point extrême, mais en réalité, c'est en germe, c'est sans doute ce qu'on va raconter, dès la Renaissance, à partir du moment où l'artiste cherche un autre statut. Il doit développer ces formes de stratégie où il peut mettre en avant, on parlait tout à l'heure d'autofiction, on peut même déjà se mettre en scène lui-même très tôt, soit lui-même, soit des biographes qui le font pour lui. Donc c'est pas neuf, simplement c'est poussé à un point assez étonnant, mais ça n'est pas neuf.
Alors on a cherché des enregistrements de la Renaissance, on n'en a pas trouvé. En revanche, on a retrouvé une archive d'un artiste extrêmement célèbre pour son sens artistique. Je veux parler de Salvador Dali.
Imposteur, non. Imposteur de qui, imposteur de quoi? Mais je suis beaucoup pire. Et beaucoup mieux que cela, je suis surtout un traître. Enfin, un traître, mais l'autre chose est mieux, je vais la trouver. Un traître à ma classe d'origine, et pire que ça, un provocateur. C'est-à-dire un provocateur de tout.
Je suis fou du chocolat l'envers.
Et oui, vous avez imaginé Salvador Dali dévorant du chocolat. Nathalie Hennig, on a l'impression que cette figure de Dali, avec d'autres, peut-être Warhol, elle incarne aujourd'hui une forme d'artiste célèbre qui ne déteste pas l'argent également.
Oui, on l'appelait Avida Dollars, hein. Salvador Dali, c'était l'anagramme de son nom, c'est bien connu. Oui, alors ce sont en effet des figures saillantes qui nous viennent tout de suite à l'esprit parce qu'elles sont atypiques, justement. Puisque ce qui est devenu typique, ce qui est devenu attendu dans l'image de l'artiste, en tout cas depuis la seconde moitié du 19e siècle, c'est une idée un peu sacerdotale de l'artiste dévoué à son art, pris par la vocation, capable de vivre dans la pauvreté, dans la misère, pour attendre les conditions de la pleine expression de son talent, de son œuvre. Bon, donc Van Gogh est devenu la figure typique de ce type d'artiste. Et par rapport à ça, un artiste qui réussit tout de suite, qui est riche, qui est reconnu par le grand public, qui passe à la télé, c'est vraiment l'opposé de cette figure typique telle qu'elle s'est construite, disons, à partir de l'époque romantique et ensuite. Donc on y pense beaucoup dès qu'on les entend, dès qu'on les voit, parce qu'ils sont exceptionnels. Simplement, il ne faut pas en tirer l'idée que c'est la norme. On pense à eux justement parce qu'ils sont anormaux au sens exceptionnel. Donc, ils sont très peu nombreux à avoir cette figure-là. Pour revenir à Kuntz, il incarne l'idée de l'artiste qui gagne énormément d'argent, qui est quasiment un industriel, puisqu'il a un grand atelier, il fait travailler des gens, et qui travaille essentiellement à partir d'images de la culture populaire, de kitsch, qu'il monumentalise, c'est l'histoire du bouquet de tulipes, et à partir de cette formule, on peut dire cette formule, il a fait une carrière absolument époustouflante, notamment d'un point de vue financier. Évidemment, cela heurte énormément les conceptions de tous ceux pour qui, encore une fois, un artiste, c'est quelqu'un qui attend la postérité pour être reconnu parce que ce qu'il fait est trop innovant pour être reconnu de son temps, et qui est capable de sacrifier son confort, sa vie privée, sa vie familiale, etc., pour l'amour de l'art. On est vraiment dans deux images très, très contrastées. Mais encore une fois, les artistes atypiques du point de vue de cette image sont quand même l'exception encore.
Bruno Girvaux, en couverture de ce catalogue consacré à cette exposition que vous allez donner au Palais des Beaux-Arts de Lille à partir du 20 septembre, il y a Frida Kahlo qui incarne, elle, une autre figure de l'artiste.
Oui, alors dans notre exposition, il y a un sujet dans le sujet qui est celui de la place, du statut des femmes artistes, voilà, qui est en filigrane, qui serait en fait le sujet d'une véritable exposition qu'on n'a pas faite et dans lequel que Frida Kahlo illustre bien, mais on a d'autres artistes qui ont un grand talent et qui n'émergera que dans la deuxième moitié du XXe siècle, voire au XXIe siècle, parce qu'elles ont été occultées soit par leurs compagnons, donc on évoque le cas par exemple de Camille Claudel et de Rodin, mais aussi celui de Frida Kahlo et de Diego Rivera. Aujourd'hui, c'est Kahlo qui l'emporte sur Rivera, mais il a fallu pratiquement 70 ans, 80 ans pour que ça arrive. Voilà, donc, et c'est une femme...
Est-ce que c'est justifié? Est-ce que Diego Rivera, Frida Kahlo, ce qu'ils représentent, leur œuvre, bref, si vous pouviez les présenter, Bruno Girvaux?
Dont deux artistes mexicains qui ont vécu ensemble, une relation assez orageuse, avec des éclipses, et une grande partie de leur vie, c'est Diego Rivera qui est sous les feux de la rampe, qui est invité dans le monde entier pour peindre des fresques un peu partout, et Frida Kahlo vit un peu dans son ombre, alors qu'elle a une vraie activité d'artiste. Voilà, et donc cette histoire est une histoire dans l'histoire, et on a voulu qu'elle soit présente, puisqu'on a dans toutes les sections et dans tout l'ensemble de l'exposition cette question des femmes qui, en réalité, n'ont pas accès au métier d'artiste, tout simplement, parce qu'il leur est interdit, comme votre, d'ailleurs, métier.
Ça veut dire que Diego Rivera ne méritait pas...
Si, alors j'ai envie de tempérer beaucoup de choses qu'on a dites. C'est-à-dire qu'on peut être, comme Dali, très très fort sur son autopromotion et être un grand artiste. De même qu'on peut avoir un couple d'artistes dont les œuvres sont de valeur. Voilà, dans le cas de Rodin et Claudel, c'est évident, ce sont deux génies, mais il y en a un qui va éclipser l'autre, probablement parce que c'est un homme. Est-ce qu'il est meilleur ou pas meilleur, je sais pas moi de le dire, mais les deux œuvres sont
de grande qualité. Aussi, c'était
le maître de Camille Claudel. Voilà, dans le cas de... Donc non, on peut être avoir un couple d'artistes dont les œuvres sont d'égale valeur.
Ça veut dire que Dali, qui est devenu... C'est peut-être même pas nécessairement par son art, mais par son image, la manière dont il l'utilisait, mérite selon vous d'être... réévaluer ou d'avoir sa place.
Non, mais il l'a déjà été. C'est un grand artiste, c'est indéniable. Après, c'est un homme qui aimait l'argent, c'est un homme... Voilà. Ce qui est intéressant chez Dali, c'est que Nathalie et Nick l'a dit, ils sont très peu nombreux à être sollicité aussitôt par la publicité. C'est-à-dire même aujourd'hui, même Jeff Koons, à ma connaissance, il fait pas de publicité pour des produits. On a vaguement Andy Warhol qui mange un burger, qu'on montre aussi dans l'exposition, qui est un Burger King au lieu d'un McDo. Ils sont très peu nombreux. Donc c'est effectivement la partie visible de l'iceberg. Très peu d'artistes ont la notoriété suffisante pour voilà. Mais il y en a qui pourraient, enfin qui ne s'y sont pas prêtés. C'est le cas de Dali, puisque je crois qu'il aimait aussi qu'on le voit.
En tout cas, très peu d'artistes au sens des créateurs, les peintres, les sculpteurs, les écrivains, les compositeurs. En revanche, il faut penser que le mot artiste est très fortement associé, notamment dans les classes populaires, non pas aux créateurs, mais aux interprètes, aux chanteurs, aux acteurs, etc. Et là, on a tout un phénomène de mise en visibilité qui crée les vraies stars au sens strict du terme, et où là, la publicité et l'utilisation de son image pour des fins de promotion publicitaire est absolument banal. On voit beaucoup d'acteurs qui vantent des marques de produits à la télévision. Et ça fait partie de la norme pour les artistes interprètes.
Bruno Girvaut.
C'est une question qui s'est posée très tôt, puisqu'effectivement l'exposition ne parle que des artistes qu'on appelle aujourd'hui plasticiens, les artistes visuels. Donc, pour faire ça, un peintre, sculpteur, un graveur, architecte, et puis aujourd'hui vidéaste. Quand on a interrogé, puisqu'on le fait de temps en temps, le public, au moment même où on commence à concevoir l'exposition, c'est quoi un artiste pour vous ? 9 fois sur 10, ça n'est pas un peintre ou un sculpteur. C'est un chanteur, donc c'est ce que vous disiez, un interprète, et non pas un créateur. Donc cela, on y mâche fort. Et quand on le dit, ça va même au-delà, puisqu'on disait fréquemment, Mbappé, c'est un artiste, c'est un footballeur avec ce génie-là, c'est un artiste. Nous-mêmes, on a invité dans une opération précédente Alain Passard, qui est un grand chef de cuisine dans le musée, et voilà, qui pouvait considérer comme un artiste. Donc c'est un mot qui est galvaudé. En l'occurrence, pour les artistes plasticiens, ils n'accèdent pas, à de très rares exceptions près, à une telle notoriété que celle des chanteurs, des comédiens.
Oui, il faut savoir que le substantif artiste n'est apparu qu'au XVIIIe siècle pour désigner donc des peintres, des sculpteurs. Et au début du XIXe, il a commencé à être appliqué à des interprètes. Donc c'est une histoire très tardive. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le terme artiste est devenu une forme de qualificatif positif parce que le statut d'artiste est devenu de plus en plus prestigieux à partir du milieu du XIXe siècle, de sorte que, y compris...
Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là ? Pourquoi ce basculement, Nathalie ?
Il s'est passé la Révolution française, c'est-à-dire qu'il s'est passé la chute de prestige de l'aristocratie, la nécessité d'une certaine façon de trouver d'autres catégories que l'on puisse admirer, que l'on puisse considérer comme étant au-dessus des autres. Et à cette époque-là, la peinture et la sculpture étaient devenues assez populaires du fait du salon de peinture qui s'était ouvert au XVIIIe siècle. Donc beaucoup de gens ont pu voir des peintures et du coup avoir envie de devenir eux-mêmes peintres. Et il y a eu toute une série de modifications liées aux effets de la Révolution française qui ont fait du statut d'artiste une forme d'élite.
Nathalie Hennig, tiens, La gloire de Van Gogh par exemple, c'est l'un de vos livres publiés chez Minuit. On continue évoquer en votre compagnie et avec Bruno Girvaut, directeur du Palais des Beaux-Arts de Lille, cette exposition qui va s'ouvrir à Lille le 20 septembre sur l'artiste.
Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner.
Dans quelques jours, le 20 septembre exactement, va s'ouvrir à Lille, au Palais des Beaux-Arts, une exposition qui propose de découvrir le rêve d'être artiste à travers plus d'une centaine d'œuvres d'hier et d'aujourd'hui. Manet, Renoir, Claudel, Frida Kahlo, Marina Abramovic et Jeff Koons. On en parle, on en profite pour s'interroger sur ce que c'est que ce statut d'artiste. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Bruno Girvaut, qui est directeur du Palais des Beaux-Arts de Lille, et de Nathalie Hennig, sociologue, qui a publié de nombreux ouvrages à cette condition d'artiste, par exemple, du peintre à l'artiste aux éditions de Minuit, avec peut-être une manière précise de situer cette naissance du statut d'artiste. Bruno Girvaut, je n'ai pas dit d'artiste, mais du statut d'artiste. C'est la signature. Qui est le premier artiste à avoir signé son œuvre?
Alors c'est difficile à dire parce qu'en fait la signature existe sous d'autres formes avant d'être la signature d'artiste, des monogrammes, des marques. Par exemple chez les orfèvres, c'est assez fréquent qu'on puisse identifier une pièce. Là où le tournant ça va être autour de 1450, c'est quand des, pour le coup, pour devenir des artistes au sens moderne du terme, quelques peintres, quelques sculpteurs vont poser leur nom sur leur œuvre. Ça a deux sens. Un, évident, c'est littéralement celui de se faire un nom, donc avec une chance, si l'œuvre survit, de passer à la postérité, qu'on sache que c'est le deuxième et plus important, c'est celui du fait que ça n'est plus du point de vue de celui qui l'a fait un simple objet avec une fonction ou rituelle ou fonctionnelle, mais une œuvre d'art. Voilà. Donc ça autonomise l'objet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la signature, à ce moment-là, n'est encore qu'une exception. Ce sont quelques hommes et quelques femmes, enlumineurs, orfèvres, peintres, sculpteurs, exceptionnellement, et que ça ne se généralisera qu'à la période moderne, avec la conjonction et la mise en place d'un système marchand au XVIIIe siècle, qui ne se généralisera au XIXe, où là, la signature devient systématique, parce qu'elle n'est pas seulement un passeport pour l'éternité, mais elle est aussi un certificat, une forme d'identification, et qu'on sait que c'est cet artiste qui l'a fait, si cet artiste a déjà une certaine cote commerciale, à ce moment-là, la signature devient systématique.
Donc
c'est vraiment l'acte fondateur, quand même.
Ça prend
beaucoup de temps, mais d'ailleurs, toute la question du statut de l'artiste prend beaucoup de temps. C'est ce qu'a expliqué Nathalie Nick dans tous ses ouvrages. C'est que ça ne se fait pas notre exposition court sur 5 siècles. Entre l'artisan qui commence à signer et qui essaie d'autonomiser son œuvre.
Alors, par exemple,
et aujourd'hui,
Jean Fouquet, j'en parle. Parce qu'il est exposé dans cette.
Il ne sera pas exposé, mais il sera sous une forme de ce que le
médaillon.
Le médaillon de Jean Fouquet, puisque c'est de ça qu'on parle. Ne sort pas du Louvre. Voilà, c'est un tout petit médaillon qui est important dans l'histoire de l'art occidental, puisque c'est la première fois qu'un artiste à la fois fait son autoportrait et signe de son nom. Voilà, c'est une toute petite chose qui fait quelques centimètres de diamètre et qui en fait se trouvait dans le cadre d'un diptyque qui était une commande religieuse. Mais c'est la première fois.
Et voilà. Il signe doublement.
Et il signe doublement, oui, absolument.
C'est son visage.
C'est son visage
signe.
Et son nom.
Et alors on pense, parce que donc ce médaillon il est daté de 1451, oui. On pense aussi aux époux Arnolfini de Van Eyck. Alors là c'est 1434,
oui.
C'est un peu...
Voilà, donc autour de 1450, puisque c'est faire une chronologie exacte de ce phénomène, mais oui, on signe. Fouquet, c'est le premier autoportrait avec une signature. Voilà. Mais on commence à signer, quelques artistes signent de façon claire autour de 1450.
Ce qui est intéressant, c'est que ces deux phénomènes, Nathalie Hennig, sont associés à la genèse de la subjectivité de l'artiste chez Van Eyck. C'est particulièrement clair, puisqu'il signe, et il se peint en train de peindre. C'est-à-dire que dans les époux Arnolfini, il y a un miroir, et il se reflète dans le miroir. Par conséquent, il y a la construction, la visibilité d'une subjectivité, d'une sensibilité à l'œuvre.
Et en tout cas d'une forme d'individualisation de la création de l'œuvre d'art. Mais la signature, de façon plus générale, est toujours un indicateur de ce qu'on appelle maintenant l'artification, c'est-à-dire le fait qu'une pratique en
l'artification.
Vient... Oui, ça s'appelle artification et ça veut dire qu'une pratique en vient à être considérée comme de l'art alors qu'elle ne l'était pas auparavant. Et la signature est toujours un indicateur d'artification. Par exemple, les photographies n'ont pas tout de suite été signées, mais dès lors qu'il y a signature, à ce moment-là, ça va de pair avec tout un changement de statut juridique, commercial, institutionnel, qui fait que on accède au rang d'art. Regardez ce qui se passe dans le cinéma. Les réalisateurs n'ont commencé à avoir leur nom générique que très tardivement, et à partir du moment où une partie du cinéma a pu être considérée comme étant de l'art.
Bon, mais alors, l'une des questions qui se pose avec l'artification, j'apprends ce néologisme Nathalie Hennig, c'est la question également de la reproduction, puisque aussi bien pour la photographie que pour le cinéma, a-t-on affaire à des œuvres d'art? Oui, évidemment. A-t-on affaire à des œuvres uniques? Non. Alors,
non.
Comment résoudre?
Non. Alors là, c'est encore un autre concept. Je ne veux pas embêter les auditeurs avec des choses difficiles de si bon matin. Mais Nelson Goodman, un philosophe américain, a très intelligemment distingué entre des œuvres qui sont des originaux, qui résident simplement dans un exemplaire unique, comme la peinture et la sculpture, et des œuvres qui résident dans la reproduction de leur du travail initial, comme la musique ou la littérature. Et donc, évidemment, dans tous les cas, on a des œuvres d'art, mais qui ont un statut, un régime d'existence très très différent.
Bruno Girvaux.
Oui, sur c'est la question du multiple dans l'art, en fait, qui apparaît très tôt. Et ça permet d'évoquer un autre sujet sur la signature, notamment le monogramme. Je prends le cas exemplaire de Dürer, voilà, grand artiste, aussi un grand businessman. S'il pose un monogramme sur toutes ses œuvres, y compris sur les multiples, d'ailleurs même plus encore sur les multiples.
C'est-à-dire les gravures.
Voilà, c'est sur les gravures, il le fait aussi sur ses peintures. C'est pour se protéger. Donc c'est un début de copyright. Il y a dans un de ces recueils de gravures une formule très amusante qu'on n'oserait pas utiliser aujourd'hui, qui est en gros adressée à ses collègues artistes. Si jamais tu t'avises de copier une de mes œuvres, ce qui est très pratiqué déjà de son temps, parce qu'il est très célèbre, méfie-toi parce que je suis protégé par l'empereur Maximilien Ier et qu'on va te confisquer tous tes biens. Donc ne t'avise pas de me copier. Voilà. Donc la signature est aussi une forme de protection, comme une forme moderne de copyright. Donc voilà, c'est tout un système assez complexe dans lequel la signature est un acte fondateur et qui va s'accompagner de beaucoup d'autres choses, la mise en place de structures d'enseignement professionnel, un système marchand qui va peu à peu se substituer au système académique et qui est en gros, de façon presque exacerbée, celui qu'on connaît encore aujourd'hui.
Et oui, ça c'est la construction de la condition sociale de l'artiste, Nathalie Hennig, avec le droit d'auteur, son apparition, sa genèse.
Oui, alors le droit d'auteur, lui, concerne plutôt donc ce que Goodman appelait les œuvres allographiques, celles qui ne résident pas dans un exemplaire unique, mais dans la reproduction de copies, hein, comme des romans qui existent en toutes sortes d'exemplaires. Et donc ce qui fait œuvre n'est pas l'objet lui-même, mais ce qui a présidé à la fabrication de l'objet. Donc le droit d'auteur a été créé donc à partir de la fin du XVIIIe siècle pour protéger justement les auteurs littéraires de la contrefaçon et de la réutilisation de leurs œuvres sans qu'ils puissent en tirer des bénéfices commerciaux. Le droit d'auteur ne concerne pas les peintres et les sculpteurs parce que eux vendent directement les objets qu'ils fabriquent. La seule chose qui peut les concerner, c'est la protection de la reproduction photographique de leurs œuvres. Encore des choses un peu compliquées, mais là, voilà.
Pourquoi choisit-on d'être artiste ? Après tout, c'est une question qu'on peut se poser. Alors, il y a différentes réponses. En voici une qui est donnée par une romancière, Christine Angot.
Je pense que pour tous les artistes, être artiste est toujours un plan B. C'est-à-dire, devenir artiste, c'est toujours ne pas avoir pu faire ce qu'on pensait faire quand on était petit, avocat par exemple,
médecin,
instituteur, ou médecin, ou alors travailler dans une entreprise, ou peu importe. C'est toujours le résultat, au fond, d'un échec.
La voix de Christine Angot, Bruno Girvaud, vous qui êtes directeur du Palais des Beaux-Arts de Lille, avec cette exposition qui va s'ouvrir le 20 septembre sur précisément la condition d'artiste, c'est toujours un plan B ?
Alors, si on parle d'aujourd'hui et qu'on regarde la réalité économique, je dirais que d'ailleurs ça vaut pour les siècles passés, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les artistes qui vivent de leur art, ils ont en général un autre métier, je veux dire majoritairement. Hein, les artistes qui vivent de leur art, c'est à peine un quart des artistes. Il faut vous rappeler quand même les faits, c'est que le revenu moyen des artistes aujourd'hui tourne autour de 20 000 euros par an. Et encore, ça c'est la moyenne, donc là-dessus les hommes gagnent 21 000 et les femmes à peu près 8 000 euros par an. Donc évidemment, il est difficile de vivre de son métier d'artiste. Et quand on est en général aussi un métier périphérique, par artistique, soit on enseigne. Voilà. Donc la réalité, c'est que oui, même si on se forme pour être artiste, même si on a un appel très tôt à devenir artiste, il est rare qu'on puisse en vivre. Ensuite, c'est aussi une construction mythique. Si on a appelé l'expression le rêve d'être artiste, c'est parce qu'aujourd'hui, finalement, tout le monde finalement ignore la réalité économique de l'artiste, mais rêve d'être artiste. Alors plutôt, on l'a dit, chanteur, comédien que peintre ou sculpteur. Mais c'est aussi une construction mythique, je veux dire par là, que très tôt, dès la Renaissance, on va considérer, en tout cas pour les génies, qu'ils sont nés artistes. Ce que vous avez appelé, Nathalie, peut-être le régime vocationnel, c'est-à-dire qu'à un moment, des gens comme Vasari à la Renaissance, le premier biographe d'artiste, va, au besoin d'ailleurs, inventer des éléments biographiques pour dire, Giotto, Cimabue, le rencontre, il garde des chèvres comme lui a demandé son père, il dessine une brebis sur le sable, tellement bien que Timagou est ébloui et l'emmène dans son atelier pour le former. Donc ça veut dire qu'il est né artiste. C'est-à-dire que le génie, Michel-Ange, sont des gens, on fait une construction mythique que font eux-mêmes les artistes pour dire bah, on est artiste, on ne le devient pas. On est, la réalité, c'est qu'on le devient. Ça peut aussi, ça peut ne pas être un plan B, ça peut être quelque chose, en tout cas c'est ce que racontent les artistes, qui s'imposent à certains hommes et à certaines femmes qui sont des artistes dès la naissance.
Nathalie Yannick.
Oui, j'ai été frappée par le ton de conviction de Christine Angot pour énoncer une énorme bêtise. Hein. Déjà, dire que c'est toujours quelque chose, ça sous-entend qu'il y a une condition monolithique et que tous les artistes se conduisent de la même façon, ce qui est déjà une grosse bêtise. Mais en plus, manifestement, elle essaye de prendre le contre-pied de cette idée de l'art comme vocation et comme réussite en montrant les artistes comme des gens qui ont échoué. Bon, alors c'est toujours l'idée de se faire une position en étant paradoxale, mais là, pour le coup, elle est complètement à côté de la réalité. Il y a toute une gamme très différente de rapports à la carrière d'artiste. Certains sont totalement vocationnels, c'est-à-dire ont toujours voulu l'être et le sont devenus. Certains ont toujours voulu l'être et n'ont pas réussi à le devenir. Certains ne rêvaient pas d'être ça et le sont devenus. Enfin, tous les cas de figure sont possibles. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre quelles sont les représentations de ces cas de figure, et nos représentations nous amène, et en effet, à penser depuis la période romantique, depuis le milieu du 19e siècle, qu'un bon artiste, c'est un artiste vocationnel. C'est-à-dire qu'il a toujours voulu faire ça et il a le talent pour le faire.
Bon, je vais tourner le dos au romantisme, Nathalie Yannick. Si on prend, non pas la période du Giotto, mais la période actuelle, l'artiste, il est souvent aux prises avec des administrations, des émanations du ministère de la Culture, avec la possibilité d'intégrer ou pas un circuit. Vous avez travaillé là-dessus. Quels sont les mécanismes, les déterminismes qui permettent à un artiste de s'insérer ou pas, justement, dans ce circuit de l'artiste officiel, pas au sens, évidemment, où on le serait dans un régime dictatorial, mais dans le sens où l'artiste peut être ou pas subventionné.
Alors, d'abord, il y a deux façons de s'insérer dans le monde de l'art. La façon qui passe par le privé, donc par les galeries, les collectionneurs, donc le marché, et celle beaucoup plus développée en France que dans tous les autres pays du monde, qui passe par un système public de subventions, d'aide à la création, de bourses, de résidences d'artistes, d'ateliers offerts, etc. Bon. Et ça, c'est un système qui a existé depuis longtemps, puisque le salon de peinture était déjà une émanation officielle, mais qui, pendant au moins un siècle, a encouragé plutôt des artistes considérés comme un peu ringards, comme des artistes classiques à une époque moderne ou des artistes modernes à une époque contemporaine. Et c'est seulement à partir, disons, de l'époque Malraux, donc des années 1960, qu'on a considéré que le rôle du ministère de la Culture n'était pas seulement de conserver le patrimoine d'aider à le public, les publics défavorisés à accéder à la culture, mais aussi d'aider les artistes dont le travail ne leur permettait pas de s'insérer immédiatement sur le marché, de les aider donc à subsister et à produire. Le problème étant que au bout de une ou deux générations, le marché a largement rattrapé tout cela et que des artistes dont il était légitime de penser qu'ils devaient être aidés pour soutenir une production novatrice et difficilement vendable, sont aujourd'hui très immédiatement vendables. Et donc, du même coup, on a une sorte de... Certains parlent de collusion entre des artistes à la fois soutenus par le marché et soutenus par l'État, ce qui, en effet, pose un vrai problème de légitimité de l'action publique.
Bruno Girvaux.
Oui, on peut le remettre en perspective, le rapport entre l'État et les artistes est presque aussi vieux que la question du statut de l'artiste et la naissance du statut de l'artiste. Puisqu'en fait, c'est tout un système qui se met en place sous le contrôle, je ne dirais pas de l'État, puisque en l'occurrence, c'est sous l'ancien régime du roi, puisque le premier acte, je dirais, fondateur et qui va protéger les artistes, c'est la création des académies, et notamment en France, en 1648, l'Académie royale de peinture et de sculpture, emmenée par Charles Lebrun, le peintre. Voilà, et ça, ça met déjà les artistes, à la fois, ça les libère des corporations, ça les exempte fiscalement et commercialement, ça leur donne un monopole sur l'enseignement et donc quasiment sur le marché de l'art, mais dans les mêmes temps, ça les met dans les dépendances du roi et des puissants. Et voilà, c'est tout l'équilibre finalement de cette question du statut de l'artiste. Pourquoi les artistes font ça? C'est-à-dire qu'un, ils se protègent, donc il faut arriver à vivre de son art, mais deux, c'est trouver, ne pas être trop courtisan. L'objectif de tout cela, quand même, il ne faut pas l'oublier, c'est obtenir la liberté de créer, c'est-à-dire se dégager de toute série d'obligations, y compris d'ailleurs morales, pour pouvoir créer sans entrave.
Mais cette exposition qui va s'ouvrir donc dans quelques jours au Musée des Beaux-Arts de Lille, elle montre à quel point le statut de l'artiste a évolué, à quel point l'artiste aussi a évolué. Je prends par exemple cette photographie de Marina Abramović. C'est une performeuse qui est aujourd'hui très célèbre. Alors c'est une photographie qui la montre sur un cheval blanc portant un drapeau blanc. Qu'est-ce qu'elle signifie cette photographie, Bruno Girvaut?
Alors, elle signifie ce qu'on veut, puisqu'en fait, elle peut signifier il y a la réalité, puisqu'elle fait, elle rend hommage à son père.
Et oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'appelle Mon père, ce héros.
Alors ça, c'est le titre que je lui ai donné. C'est pas le titre de l'œuvre.
The Hero. En fait, elle rend... vous m'obligez à sortir mon accent anglais. Le héros, c'est le titre de l'œuvre.
Voilà, le héros. Et dans le héros, en réalité, c'est son père. Un héros du temps, de la Yougoslavie, de Tito. Mais c'est elle qu'elle met en scène en tenant un drapeau, mais qui est un drapeau blanc en l'occurrence, pas un drapeau yougoslave, et qui en réalité au départ est une vidéo, et elle est sur un cheval, et elle tient ce drapeau qui est très lourd pendant plusieurs heures jusqu'à qu'elle tombe du cheval et que le drapeau tombe. Et là, c'est une photographie, et donc elle rend hommage à son père. La réalité, quand on voit l'image, c'est qu'on a l'impression d'une mise en scène de l'artiste elle-même. Alors, on en a l'habitude avec elle, mais elle est presque en héros. Alors là, je ne vais pas l'écrire de la même façon, H, accent aigu, R, A, U, T. Héros et héros de la cause artistique. C'est-à-dire, c'est un artiste en majesté qui est sur quasiment un chevalier. Donc voilà, c'est une image qui peut être lue de diverses façons et qui d'ailleurs termine une section. On peut difficilement plus faire plus qu'artiste en gloire, artiste en majesté et qui se met lui-même en scène.
Et ce que je trouve intéressant dans cette photographie, c'est que si on la voit sans titre, sans rien, on est a priori assez interloqué, on ne voit pas très bien ce que ça représente. Et donc, il faut un discours qui accompagne l'œuvre. Et l'œuvre est quasiment indissociable de ce discours. Et ça, Nathalie Hennig, c'est particulièrement représentatif de l'époque actuelle.
Oui, c'est ce que j'ai essayé de montrer, entre autres choses, dans le paradigme de l'art contemporain. C'est-à-dire qu'une des caractéristiques qui font qu'une œuvre est labellisée et qualifiée d'art contemporain, c'est qu'elle est indissociable d'un discours, que ce soit le discours de l'artiste qui en fait un commentaire, mais plus souvent et plutôt, de préférence, le discours d'un intermédiaire qui va ajouter un cartel, un texte, une interprétation quelconque, ou tout simplement l'artiste qui, en montrant cette œuvre dans son atelier à des commissaires d'exposition, à des critiques d'art, va commenter l'œuvre. Et ça, c'est une des grandes différences entre l'art contemporain et l'art moderne, qui, lui, n'avait guère besoin de discours accompagnement.
Bruno Girvaut.
Alors, on assume, et c'est une singularité de l'exposition comme il y a une singularité du statut de l'artiste. Chaque œuvre dispose d'un texte très mis en valeur au-dessus de... Voilà. Donc on assume le fait d'expliquer les œuvres. Parfois même, j'ai eu l'exemple assez il y a quelques jours contre l'avis de l'artiste. Voilà, on assume du discours qui explique l'œuvre. Donc en réalité, c'est exclusif.
Ah oui, parce que c'est l'artiste n'est pas content parce que c'est pas son discours que vous.
C'est pas son discours et il ne souhaite pas nécessairement un discours, contrairement à ce qu'on vient de dire. Ce que je veux dire, nous, c'est on l'assume
des artistes
comme un récit. En fait, cette exposition est une histoire que l'on raconte, et donc il y a des textes pour chacune des œuvres présentées.
L'une des figures de l'artiste aujourd'hui, ce sont tout simplement les chanteurs. Et je voulais vous faire entendre, c'est un très bel extrait, la voix de Jacques Brel.
Parfois, on m'a demandé ce que c'était qu'un artiste, si vous voulez. Enfin, parce que c'est ça. L'art, je ne connais pas, je n'ai jamais pratiqué une discipline stricte, n'est-ce pas? La chanson, c'est une petite chose. Je crois aussi que le cinéma est une petite chose, d'ailleurs, vous savez. Je crois qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a mal aux autres. Et dans les chanteurs, il y a des chanteurs qui ont mal aux autres et des chanteurs qui n'ont pas mal aux autres. Et puis, il y a aussi des gens qui ont du talent et des gens qui n'ont pas de talent. Alors, j'essaie de savoir ce que c'était que le talent. Et je crois que le talent, c'est avoir envie de faire quelque chose. Mais ce n'est que cela. Et après, il y a toute une vie à user pour essayer de faire ce quelque chose. Et tout chanteur correspond à quelque chose. Et je crois que tout film correspond à quelque chose. Et toutes les fleurs correspondent à quelque chose. Et tous les climats correspondent à quelque chose.
Il se lâche, c'est très joli.
Bien, vous savez, les interviews, c'est les gens sont désinhibés.
Oui. Normal aux autres, c'est très joli, ça, je dois dire.
Ça pourrait tout à fait s'appliquer aux artistes plasticiens.
Qu'est-ce que ça éveille en vous, Il y a les sociologues qui ont mal aux autres, mais...
Non, mais on ne dirait jamais un notaire, c'est quelqu'un qui a ceci, qui a... Vous voyez, ça veut dire tout simplement que le terme artiste, depuis, encore une fois, l'émergence de l'élite artiste au XIXe siècle, est devenu une sorte, de titre de noblesse, qui fait rêver et qui donc fait parler. Et donc, il suffit de dire artiste et vous aurez toutes sortes de discours, les plus... intelligents comme les plus stupides, comme certains qu'on a entendus ce matin. Je ne parle pas des gens qui sont dans le studio. Et donc, voilà, ça, c'est une sorte de machine à faire parler et à faire rêver, d'où l'intérêt du titre de cette exposition. Le rêve d'être artiste, c'est en effet très bien trouvé.
Un mot de conclusion, Bruno Girvois.
Quoi qu'on en dise, même s'ils ont été... sont parfois irritants, ils sont capables de s'autopromouvoir, on ne peut pas se passer des artistes.
Et oui, j'ai une fameuse sérigraphie de Ben sous les yeux où il dit « Je suis le plus important ». Cela fait partie des œuvres que vous exposerez donc dans quelques jours au Palais des Beaux-Arts.